Bonjour à tous. J'avais le désir de, une semaine de la célébration de Pâques, de partager un texte du Nouveau Testament qui présente un homme étranger à Israël qui se trouve à méditer la parole de Dieu et qui comprend, en lisant l'Écriture, la révélation qui se trouve en Jésus-Christ. Il comprend l'œuvre de la rédemption, et c'est un homme qui était en pleine recherche. Alors j'avais envie de partager ce texte-là avec vous. Il se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, et à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui s'étend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char !» Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Amen. C'est un texte qui est particulier. On est après Pâques, quelques mois après la résurrection de Christ, et on assiste à une rencontre entre à la fois Philippe et un eunuque. Et quand j'étais à Cœur du Dos, je demandais toujours, quand on méditait sur un passage, donc dans cet établissement de soins, un message de la Bible, j'avais quand même un privilège de partager l'Écriture avec quelques patientes, et je demandais toujours... on a bien lu la même chose? Est-ce qu'on a retenu la même chose? Et un des moyens que j'avais de vérifier cela, c'était de poser des questions toutes simples. On peut se dire, par exemple, combien il y a de personnages? Quels sont les personnages de ce récit? Il y a quelqu'un qui fait la tête parce qu'elle était là à une certaine époque à assister à ces moments-là. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage dans ce récit? Vous vous en rappelez? Parlez fort parce que le monsieur, il a du mal à entendre. Philippe. Philippe, d'accord. Un homme qui s'appelle Philippe. Qui d'autre? L'eunuque. Qui d'autre? Qui ça?
L'âne.
L'âne, bien sûr. Je parlais des personnes, mais bon... Est-ce qu'il y a d'autres qui sont présents dans le récit, qui sont mentionnés? Il y en a d'autres, oui, mais présents. Il est évoqué, oui. Alors, un conducteur, on ne sait pas qui, mais en tout cas, il y a quelqu'un auquel il est demandé d'arrêter le char. Et puis après, bah, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est un récit assez limité. Il y a quand même, au-delà d'un personnage, on pourrait dire une personne, qui est présente. L'Esprit Saint. On veut dire que ce récit, il se résume en termes de personne agissante de Philippe, de l'eunuque et du Saint-Esprit. C'est un récit qui finalement est assez resserré en termes de personnages. Alors, dans ce texte que nous avons lu, il y a juste le verset 37, je ne sais pas si vous voyez, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une proclamation de foi. C'est dans ce texte-là, un des versets qui ne figure pas dans tous les manuscrits anciens du Nouveau Testament et des Actes des Apôtres. Alors, il y a des discussions pour savoir comment se fait-il qu'à partir, semble-t-il, du 3 ou 4e siècle, ce verset-là est disparu de certains manuscrits et certains disent que c'est parce que cette proclamation de foi ne correspondait plus à la proclamation que l'Église imposé au moment du baptême. Donc c'est une des explications, d'autres que certains manuscrits l'avaient omis, etc. Mais en tout cas, pour la Bible Second et d'autres traductions, je pense que dans votre Bible, vous devez l'avoir, il y a ce verset qui, pour moi, est un verset important, puisque c'est une proclamation de foi qui va permettre à Philippe de dire, bah oui, rien ne s'oppose à ce que tu sois baptisé. Donc, moi, je considère que le verset 37 est partie intégrante de ce récit, qu'il en est même un des points forts. Trois personnages, Philippe, l'eunuque, le Saint-Esprit. Ah, tiens, je vais vous montrer une représentation artistique qui a été faite par un peintre qui est Lastman Peter, qui vivait de 1583 à 1633, c'est-à-dire après la Réforme. La Réforme, c'est 1517, donc le protestantisme est né à ce moment-là. Et lui a représenté le baptême. On peut éteindre la lumière juste pour qu'on le voit un petit peu mieux, peut-être. La représentation qui a été faite du baptême de l'eunuque éthiopien. Et effectivement, quand Lastman Peter a représenté, alors qu'il y a tout le protestantisme qui est déjà installé en Europe, le baptême de l'eunuque éthiopien, on voit qu'il y a plein de personnages. Il y a même un chien qui se balade dans un coin, il y a une troupe qui est à côté, on voit l'eunuque qui est en fait un homme de couleur. Et c'est important parce qu'en fait, on verra que les traductions qui ont été faites de ce passage omettent, je dirais, de marquer le fait que c'était un homme de couleur. Enfin, je dis couleur, on est tous de couleur. Hein. Moi, je suis à moitié jaune, donc. Mais c'est un Africain. Et en fait, l'Africain, c'est un mot qui est dans le texte qu'on ne voit pas apparaître. Je vous en reparlerai après. Et donc, Lastman Peter a représenté cela dans un cadre un peu bucolique. Il y a des choses importantes. Il y a un indice qui précise dans ce tableau-là qu'on est après la Réforme. C'est quel indice ? La Bible. Vous imaginez que Michel ou moi-même ou d'autres qui ont pratiqué, qui ont conduit des personnes à prendre le baptême, se déplacent avec une Bible de cette taille-là en disant, voilà. C'est une manière pour le peintre Lastman Peter, qui était sensible à la Réforme, de dire, cela c'est conforme à la parole de Dieu qui est au centre de notre foi, qui est même le support de notre foi. Donc un tableau qui est sympa, Lastman Peter avait un petit peintre qui travaillait dans son atelier, qui l'a formé, on peut peut-être le voir, qui a reproduit le même tableau du baptême de l'eunuque éthiopien. C'est un petit peintre qui s'appelle Rembrandt, je ne sais pas si ça vous dit, qui a travaillé dans son atelier pendant quelques temps, qui a été son élève. Et on retrouve la même représentation à la fois d'un homme africain, et on voit quelqu'un qui l'accompagne, ça veut dire que dans le récit des Actes des Apôtres, c'est une scène qui est centrée sur Philippe, sur l'eunuque éthiopien et sur le Saint-Esprit. Mais c'est un peu comme une photo, le focus dans les Actes des Apôtres est sur ces trois personnes, mais dans la réalité, on imagine bien que le surintendant de la reine Candace d'Éthiopie ne se déplaçait pas comme ça tout seul dans le désert. Donc il avait tout un équipage, on apprend qu'il a un char, il y a quelqu'un qui conduit le char, et il y a des gens autour. Et l'on voit un petit peu la représentation qu'il y a. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours un chien dans un coin du tableau, c'est-à-dire que Rembrandt a repris à gauche le petit chien qui était à droite chez son maître. Vous voyez, donc c'est les petits détails. Mais ça fait un peu vivant. Et là, on est aussi sur déjà un baptême qui n'est plus par immersion, comme dans le tableau de Lasman. On peut dire que c'était aspersion, immersion, c'est pas trop dans le tableau de Lasman, mais en tout cas, il y a une aspersion. Et là, l'eunuque éthiopien est tout habillé et il reçoit quelques gouttes sur la tête. Donc voilà, c'est aussi l'évolution du baptême, notamment au moment à l'époque de la réforme, et notamment dans le catholicisme. Voilà, vous pouvez laisser le tableau, ça servira de support. Trois personnes dans ce récit des Actes des Apôtres. Ce récit, on a un premier personnage, c'est Philippe. Philippe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un homme dont il est fait mention dans Actes 6, verset 5, lorsqu'il s'est agi de choisir des hommes qui puissent suppléer aux tâches de la vie de l'Église, des tâches pratiques. Et il était demandé à ce que cette personne, cet homme, soit désigné, rempli de l'Esprit-Saint pour permettre à l'Église de vivre et d'assumer des tâches pratiques. Eh oui, messieurs, à l'époque, c'était les mecs qui faisaient le service. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut peut-être susciter des vocations et puis démontrer, rappeler que c'est pas que les femmes qui font les tâches pratiques. Et inversement, c'est pas que les hommes qui s'occupent des choses spirituelles. L'Évangile est un petit peu plus ouvert que cela. Et parmi ces sept hommes, il y avait notamment ce Philippe, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est ce qu'il est dit de lui, mais aussi d'Étienne, qui sera lapidé plus tard. Alors ce récit ne commence pas de n'importe quelle manière, puisqu'il est dit que ce Philippe était connu comme un homme agissant sous l'action du Saint-Esprit. Il était à la fois un diacre et un évangéliste. Eh oui, messieurs, on peut cumuler les mandats et avoir un mandat pratique et un mandat spirituel. C'est ouvert. Donc, il était rempli de l'Esprit-Saint. Et ce texte nous dit qu'il est interpellé par l'ange du Seigneur. Alors, c'est une appellation un peu particulière. D'abord, ça veut dire que Philippe était un homme qui était sensible à la voix de l'Esprit, à être rencontré par Dieu, et se pose la question en ce temps pascal, hein, puisqu'on est à une semaine de Pâques, c'est « Sommes-nous aujourd'hui des hommes et des femmes sensibles à la voix de l'Esprit ? Est-ce que nous pouvons être rencontrés par l'ange du Seigneur ?» Pour Philippe, ça posait aucun problème. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Alors, on a celui qui est désert. Mais dans une autre traduction, notamment celle d'André Chouraquet, dit « Là où c'est le désert, là tu vas à cet endroit-là. » Alors, l'ange de l'Éternel, on peut se demander, ou l'ange du Seigneur, ce que c'est. Hein ? Parce qu'il n'est pas dit un ange, il n'est pas dit, non, c'est l'ange du Seigneur. En fait, c'est une formulation qu'on retrouve dans l'Ancien Testament sous le terme l'ange de l'Éternel, qui à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament va rencontrer des personnages, des croyants juifs. Ça peut être Abraham, ça peut être d'autres, des prophètes, etc., Moïse. L'ange de l'Éternel, en fait, si on prend la traduction grecque de ce passage, c'est l'ange Angelos Dekurios, l'ange du Seigneur. Eh bien, dans l'Ancien Testament, cet ange de l'Éternel, on s'est beaucoup posé la question de qui s'agit-il ? Est-ce que c'est un ange comme les autres créatures angéliques, c'est-à-dire un être angélique qui a été créé par Dieu pour intervenir auprès des croyants, ou donc un malach en hébreu. On le trouve dans des passages comme Genèse 16 ou Exode, je ne vais pas vous... Exode 3, versets 2 à 6. Mais il y a aussi, dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel qui est présenté comme un être non créé. On le retrouve notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 22, qui introduit quelque chose, une autre manière de concevoir l'ange de l'Éternel. Et c'est un passage dans Proverbes 8, 22 qui parle de la sagesse. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et lorsqu'il est parlé de cette sagesse, le passage introduit la sagesse comme étant aux côtés de Dieu lors de la création. La sagesse. Donc il y a une incarnation de la sagesse qui est à côté de Dieu au moment de l'incarnation. Et dans ce passage de Proverbes, la sagesse dit « L'Éternel m'a créé ». On se dit « Bon, bah alors c'est un ange ». Oui, sauf que le terme hébraïque qui parle de cette création de la sagesse, ce n'est pas « Bacha ». Boreshit, Bacha, Elohim, au commencement, Dieu créa. Non, ce n'est pas ce verbe-là, c'est le verbe kana qui peut se traduire par, et c'est traduit d'ailleurs dans beaucoup de Bibles hébraïques, par l'Éternel me possédait tout au début de son activité. On lit ça dans la Bible du Semeur. L'Éternel me possédait. Et en fait, il y a quelque chose qui présente la sagesse au moment de la création, comme étant à côté de Dieu. Et donc, pour beaucoup d'interprètes et d'exégèses, cette sagesse qui est à côté de Dieu, c'est une représentation, ou c'est en tout cas une citation du Fils de Dieu, de Christ lui-même, de la parole, de la sagesse qui est créatrice à côté. Donc, ça veut dire que l'ange de l'Éternel serait une représentation du Christ avant son incarnation, qui est présent dès la création. Moi, je trouve ça intéressant, parce que ça signifie que l'ange du Seigneur dont il est question ici, dans l'épisode de Philippe et de l'eunuque éthiopien, bah c'est aussi un peu comme Paul sur le chemin de Damas, une intervention du Christ qui se présente à Philippe. Ah, j'aime bien, moi, quand dans les textes de la parole de Dieu, de l'Écriture, on voit comment Dieu agit, se présente, intervient, conduit et dirige toutes choses. Et là, c'est juste au verset 26, il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, ce chemin qui est désert. » Alors déjà, il me dit, est-ce que nous sommes prêts, nous, à nous laisser conduire par le Seigneur de manière aussi concrète ? Lève-toi et va. Ce matin, ça me vient à l'esprit maintenant en vous en parlant, j'étais en train de mettre ma cravate dans la chambre, ma femme était assise sur le lit et je lui disais, mais je remontais de mon bureau où j'avais lu et relu ce passage et je lui disais, mais c'est quand même un avantage extraordinaire d'avoir pu partir au Danemark pendant 3 ans, d'avoir fait un stage pastoral, mais d'avoir eu des professeurs qui pouvaient nous enseigner. Je dis, mais quel privilège j'ai eu de pouvoir vivre cela, de partir comme ça. Puis après, elle me disait, mais comment ça a pu s'installer dans ma tête, dans mon cœur, de partir au Danemark pour étudier la parole de Dieu, pour vivre ce temps de consécration. Je dis, mais c'est fabuleux, hein. Et j'étais là interrogatif, mais je ne sais pas comment la chose s'est installée en moi. Il y a eu un pasteur qui a compté, qui s'appelait Maurice Truc, qui était mon pasteur, et qui était resté au Danemark pendant presque 10 ans, qui avait épousé une Danoise. Alors, je n'y suis pas allé pour épouser une Danoise. D'ailleurs, la preuve est assise au fond de la salle. Ça m'a installé dans cette idée de consacrer du temps et cette pensée, alors qu'il n'y avait rien de légitime pour moi en tant que gamin des banlieues qui avait arrêté ses études en troisième, qui était devenu mécanicien en aéronautique. Rien ne me prédestinait, me donnait de légitimité à partir étudier comme ça. Mais le Seigneur a déposé cette conviction Et elle est restée en moi de l'âge de pratiquement 17 ans jusqu'au moment où je suis parti au Danemark 4 à 5 ans plus tard. Philippe a été rencontré par l'ange du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà été rencontré par Christ d'une manière aussi claire qu'il ait déposé en vous une conviction en disant « Lève-toi et va ». Si vous ne l'avez pas vécu, moi je vous invite à demander à Dieu de déposer dans vos cœurs et dans vos vies des convictions aussi solides que cela. Mais vraiment de le faire. Je ne vous invite pas à dire « ça serait bien d'y penser ». Moi je vous invite à demander à Dieu de déposer dans vos cœurs des convictions dont vous puissiez dire « bah c'est une évidence ». Moi, quand ma mère et mon père m'ont dit « mais tu veux aller au Danemark, mais tu travailles chez Dassault, tu as un bon métier, la ligne est tracée, etc. Pourquoi ?» C'est une conviction. Est-ce que nous pouvons, comme Philippe, être habités par une conviction et y aller ? Alors, si je vous parle de cela, c'est parce que Philippe, il en est parlé un tout petit peu avant, je crois que c'est au chapitre 6 notamment, où il y a eu un moment où Philippe est présenté comme quelqu'un qui est un évangéliste. Et il est dit qu'il y avait des foules, au chapitre 6, qui se convertissaient à la prédication de Philippe. Génial ! Bon, j'ai une petite foule, donc moi je suis content, hein ? Mais lui, c'était des foules, et les gens recevaient la bonne nouvelle. Ouais, le Saint-Esprit le rencontre. L'ange de l'Éternel le rencontre et lui dit « Bon, tu vas aller sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Certainement, le Saint-Esprit se trompe. Écoute, il y a une foule qui est là, il y a des gens qui se convertissent, il y a encore plein de monde à ramener au Seigneur, etc. Qu'est-ce que je vais aller faire sur un chemin désert ? Parfois, la manière dont le Saint-Esprit nous conduit, ou l'ange de l'Éternel nous appelle, correspond pas à ce qui nous semblerait le plus évident, le plus sensé, le plus efficient. Non, je vais rester à proximité, là. Il y a encore des foules à convertir. Non, va dans le désert. Là où c'est désert, il n'y a rien. La formule grecque, c'est vraiment « tu vas sur ce chemin, celui qui est désert ». Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans le désert ? Va là-bas. Et ce qui est formidable dans le comportement de Philippe, c'est qu'il y va. Il y va, il se lève et il part. On pense à Abraham qui agit de la même manière. Ces hommes de foi qui disent « moi, si c'est le Seigneur, j'y vais ». Quand est-ce que tu te lèves ? Quand est-ce que tu vas ? Je me tue toujours à ma gauche parce que je regarde tout le monde sauf ceux qui sont à l'écart. Mais je ne veux pas qu'ils se sentent écartés du message. Lève-toi et va. Hein ? Ah ouais. Et Philippe se lève, plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a même à un moment donné, il est dit au verset 30, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Philippe a couru. Quand il voit l'Éthiopien, il accourt. C'est-à-dire qu'il ne se lève pas simplement pour marcher en disant « Bon, j'y vais. Oui, il faut y aller. C'est maintenant. » Non. Quand il voit ce qu'il y a devant lui, il accourt. Est-ce que nous pouvons courir vers ce que Dieu attend de nous ? Il vient en courant. Pourtant, dans le désert, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui presse, hein. Il n'y a pas grand-chose. Le prochain décathlon est assez loin. Il n'y a pas à se presser. Il n'y a pas de bancomat, c'est-à-dire d'appareil pour les cartes bancaires. Non, il y a le temps. Non, lui, il court quand même. Et en ce sens, je crois qu'il est habité par le même esprit qui habitait Paul, qui disait aux Corinthiens, « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. Philippe est habité par cette nécessité, par cette urgence d'annoncer l'Évangile. Alors, il est dit au verset 30, « Ouvrant la bouche, il annonça La bonne nouvelle. Sommes-nous dans la même urgence et la même nécessité? Est-ce que nous sommes habités de cet esprit-là? Ou bien on dit, on verra, on a le temps, et puis il y a d'autres priorités. Et c'est vrai que notre siècle est largement porté par d'autres priorités. Je vous disais, si vous n'êtes pas interpellé par l'Esprit-Saint, demandez-lui à ce qu'il vous interpelle. Mais si il vous interpelle, faites aussi cette prière pour qu'il y ait en vous, comme en moi, l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle. L'urgence. On peut dire, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi de croiser dans mon désert, parce que nous vivons parfois dans des déserts. Hein, il y a peu de monde que l'on croise, peu de personnes qui viennent vers nous ou vers lesquelles nous pouvons aller. Dans ce désert-là, donne-nous de rencontrer cet Éthiopien qui cherche et qui a soif. Et l'annonce qu'il fait, Philippe, est simple, efficace, tellement efficace que l'eunuque finit par dire, bien, qu'est-ce qui m'empêche d'annoncer, de prendre mon baptême? Alors faisons cette prière-là. Qu'est-ce que nous risquons? Et puis, deuxième personnage présent, c'est le Saint-Esprit. Alors regardez ce texte, les deux principaux personnages semblent être ce binôme que forment l'eunuque éthiopien et Philippe. Mais en y regardant de plus près, en arrière-plan, en fait, derrière Philippe, serviteur fidèle, se tient une personne invisible, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit de bout en bout cette rencontre. Lorsqu'il est dit que un ange du Seigneur s'adressant, Dieu est présent. Et cet homme rempli du Saint-Esprit, eh bien, va se mettre en route. Et au verset 29, il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Ça veut dire que quelque part, cette rencontre, cette démarche, elle est conduite du verset 29 au verset 39, dix versets, par l'action de l'Esprit. L'Esprit accompagne la venue et le départ de Philippe. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que Philippe, il est amené auprès de l'Éthiopien par le Saint-Esprit, et une fois que c'est réglé, pouf, il disparaît. C'est quelque chose d'assez étonnant. On pourrait presque se dire que Philippe, il est comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est un coup de vent. On ne sait pas trop d'où il vient et on ne sait pas où il va. Mais il passe là, et entre les deux, entre le verset 29 et 39, il fait ce que le Saint-Esprit attend de lui. Est-ce que nous sommes prêts à vivre la même chose? Ça, c'est de la disponibilité spirituelle. Est-ce que je peux dire, Seigneur, là où tu m'appelles à être, et jusqu'à ce que je sois parti, que je parte, que je quitte ce lieu, fais que je sois efficace spirituellement. Ah ouais! Philippe, il ne se pose pas de questions. Il fait, il est et il fait. Le Saint-Esprit n'est pas nommé dans le texte entre ce verset 29 et 39. Dans le moment où il dit « va vers ce char » et le moment où le Saint-Esprit, au verset 39, « l'Esprit du Seigneur enleva Philippe », le Saint-Esprit n'est plus mentionné. C'est l'homme rempli de l'Esprit qui agit. Il fait ce que le Saint-Esprit attend de lui. Ah ouais! Il y en a qui vont réagir, je dis, c'est simple. Non? C'est simple. Il fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Il est dans l'obéissance. Alors quand nous méditons la parole de Dieu, est-ce que nous nous laissons interpeller par cette réalité-là de la manière d'être et d'agir de Philippe? Est-ce que ça nous invite, nous, à nous poser cette question? Est-ce que je suis dans cette même obéissance? Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas se dire « Ah, qu'est-ce que c'est bien cet eunuque éthiopien qui se convertit ?» C'est se dire « Mais moi, là-dedans, je suis où? Si je ne suis pas celui qui est appelé à se convertir et à prendre le baptême, est-ce que je suis Philippe ? Et méditer la parole, c'est se laisser interpeller par le comportement, la place que tient le Saint-Esprit dans la vie de Philippe. Est-ce que c'est la place qu'il a dans ta vie et dans ma vie ? C'est cela, méditer la parole. Après le baptême, eh bien, Philippe disparaît. Et puis le troisième personnage, c'est l'eunuque africain, un homme qui sonde et médite la parole de Dieu. Il est là dans son char et il est en train de lire, pas n'importe quel livre. Ça me fait penser à moi quand je suis arrivé au collège biblique et j'ai vu Michel étudier l'écriture le soir après les cours. On avait à peu près 7 heures de cours par jour. Et puis, comme j'arrivais, moi, de ma Normandie, sans savoir, ayant quitté l'école assez tôt, savoir comment étudier, bah, j'ai regardé comment faisaient les autres. Et puis, il y avait ce gaillard filiforme qui était toujours avec la même Bible et qui, après les cours, montait dans la bibliothèque, travaillait, se penchait, sondait l'écriture, coloriait sa Bible, etc., etc. Et je lui dis, bah, il faut faire comme ça. Je lui dis, bon, bah, je vais faire pareil. Moi, j'ai commencé par étudier un livre de la Bible et je m'étais attaqué à Ésaïe. Et au bout de quelques semaines, je dis, je vais peut-être en apprendre un plus petit. Parce qu'au bout de quelques semaines, j'étais arrivé, que je n'avais pas encore fini le premier chapitre. Je dis, bon, on va prendre quelque chose de plus restreint. Mais l'eunuque éthiopien, il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Alors, ce n'est pas n'importe qui, cet homme qui est dans le désert. Et peut-être que là, vous pouvez vous retrouver aussi dans ce modèle de l'eunuque éthiopien. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans des déserts. Peut-être que moi, j'ai connu, et j'en connais encore, hein, des moments où on est dans le désert et que ce n'est pas facile, parce qu'on cherche la bonne direction, on cherche l'éclairage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Qu'est-ce que j'ai à vivre ? Et cet homme-là est un homme important. Si je vous demandais, allez, faisons un petit jeu. Si je vous demandais de me décrire cet homme-là, qu'est-ce que vous diriez comme qualificatif par rapport à cet homme ? Allez-y, mais assez fort que j'entende.
Curieux.
Curieux. Oui. Un autre qualificatif ? Déterminé. Oui. Alors déterminé parce qu'il est... pourquoi tu dis déterminé d'ailleurs ? On va peut-être étoffer. Ah, voilà, il était dans une recherche qu'il poussait. Curieux, Christiane, tu dis curieux. Pourquoi curieux ? Ça te semble être une de ses caractéristiques ? Ah oui, curieux par rapport au livre qu'il a. On a vu sur le tableau qui a été donné tout à l'heure, là, qui a été mis sous vos yeux, on voit une grosse Bible, mais un rouleau du livre d'Ésaïe. D'abord, c'est quelque chose qui est saint. À l'époque en question, vous savez, c'est des rouleaux qui sont copiés à la main et qui sont qualifiés de saints. C'est pour ça qu'à Qumran, les rouleaux de la Bible qui étaient usagés, on les mettait dans des jarres et on allait les enterrer dans des grottes parce qu'on ne pouvait pas les détruire. C'était la parole de Dieu. Donc on imagine que cet homme-là, il était curieux, il s'est procuré un rouleau du livre d'Ésaïe. Ce qui pose des questions, on verra après, ça pose des questions. Mais il a fait la démarche quand même, hein, parce que dans la langue juive, on dit, quand un rouleau est la parole de Dieu, et qu'il est reconnu comme parole de Dieu, c'est un rouleau qui souille les mains. C'est-à-dire que quelque part, si on touche la parole de Dieu, on est pécheur, donc ça souille les mains que de toucher la sainteté de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, il n'avait pas n'importe quoi. Quelle autre caractéristique pour cet eunuque ? Il était instruit puisqu'il lisait, en tout cas, la langue hébraïque ou l'écriture hébraïque. Oui, oui. Quelle autre caractéristique ? C'est un haut personnage. Alors, ce n'est pas une caractéristique, je dirais, de sa personnalité. C'est son statut social, effectivement. Et on verra que ce n'est pas n'importe qui, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a un poste très, très élevé. Donc, alors on va le dire tout de suite. Est-il écrit un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de ses trésors venu à Jérusalem pour adorer. Dans ce verset-là, on a plusieurs indications, et des fausses indications d'ailleurs. Il est dit d'abord que c'était un Éthiopien. En fait, le terme qui est utilisé en grec a donné éthiopien, mais à l'époque, c'était quelqu'un qui venait de la cour de Candace, reine d'Éthiopie. Alors, il ne s'agit pas, on a mis un éthiopien, Éthiopie. En fait, le mot Aethios, qui a été utilisé, ça parle de quelqu'un qui vient du royaume de Kush, qui est un peu le Soudan, proximité du Soudan et de l'Éthiopie. Et Candace, ce n'est pas le nom d'une reine, c'est un titre royal pour des reines, notamment des reines guerrières qui existaient dans cette région-là. Donc on va dire que Candace, c'est le même titre que Pharaon, par exemple. Vous voyez ? Mais donc Candace, c'est comme on disait, la pharaone du royaume de Kush. Et lorsque je suis allé rechercher ça dans mon gros dictionnaire baïque grec-français que je sors de temps en temps, et il dit une chose, c'est que ce mot qui a donné éthiopien n'était pas utilisé avant le 4e siècle, mais ça parlait des hommes de couleur, à la peau de couleur très noire. Et c'est en fait une manière de désigner cette personne. C'est quelqu'un qui était de couleur noire très, très foncée. Et on a des ethnies en Afrique hein, qui ont des couleurs variables. Hein. Tous les Africains ne sont pas pareils. C'est comme les Vietnamiens ou les Asiatiques hein, ou comme les Blancs. Vous croyez que vous êtes tous blancs, mais non, vous avez des couleurs différentes. Hein. Et donc cet homme-là, il fait partie d'une ethnie qui était avec une peau très, très sombre d'ailleurs. On le retrouve dans les représentations de Rembrandt, cette couleur très, très foncée. Donc, ce n'est pas un Éthiopien, c'est un Africain, en fait. Dans beaucoup de textes anciens, le mot qui est utilisé, c'est un Africain. Moi, j'aime bien savoir que pratiquement le premier qui se convertit des nations étrangère à Israël, un étranger hors Israël, c'est un Africain. Hein? Là où les Européens pensent qu'ils sont le fruit très rapide de l'Évangile, etc. Non, le premier qui accepte et qui est baptisé, c'est un Africain. Et beaucoup de traductions anciennes ne portent pas le mot éthiopien, mais Africain. Donc voilà. Et Candace, c'est donc un titre de souveraine du royaume de Kush. Alors, ça dit, voilà, personne très élevée, puisqu'il était surintendant de tous ses trésors. Il était eunuque. Personne ne l'a mentionné, ben, ce n'est pas son caractère, ça c'est plutôt une caractéristique. Vous savez tous que ce qu'est un eunuque, c'est quelqu'un qui a été castré. Et souvent, dans certaines positions très élevées, il fallait avoir des personnes de confiance, notamment quand il y avait une responsabilité par rapport au harem du roi. Eh bien, on y plaçait des eunuques pour être sûr de la confiance qu'on pouvait leur placer. Là, c'était quelqu'un qui avait été castré et qui avait un poste au niveau administratif très important. Et il est même dit, dunamai, je crois si c'est le terme qui avait été donné en grec, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une position d'élévation importante, qui est puissant. Dunamai, on a mis dynamite, hein. C'est quelqu'un qui est puissant. Mais n'empêche que dans sa toute puissance, un peu semblable à celle de Joseph dans la Genèse, qui était ministre de Pharaon, c'était quelqu'un qui était en recherche. J'aime bien. Oui ? Ah, très intéressant. Oui, bonne question. Il est dit qu'il était venu pour adorer. En fait, ce que l'on découvre, il est venu à Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre cultuel du judaïsme. Donc, on suppose que là où il était, il est devenu quelqu'un qui s'est attaché à ce Dieu d'Israël. Il est devenu, on va dire, un sympathisant. Pour autant, il ne pouvait pas être intégré au judaïsme et ni rentrer dans le temple, dans les parties qui étaient admises aux Juifs. Pourquoi ? Pourquoi, selon vous ? À cause de la loi, mais sur quel point ? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas juif. En fait, pour tous ceux qui ont travaillé sur ces textes-là dans l'exégèse, ils disent qu'il ne pouvait pas, en allant à Jérusalem, rentrer, dans, quelle que soit son implication dans le judaïsme et dans son adoration. Il est venu pour adorer le Dieu d'Israël à Jérusalem. C'est pas rien. Donc il a une foi dans le Dieu d'Israël, dans Yahvé. Mais tout simplement parce qu'il est castré et que les hommes qui ont été mutilés de cette manière-là ne peuvent pas rentrer dans le temple. Alors quand on dit ça, on se dit, ah oui, mais alors, caractéristique, cet homme-là, c'était aussi quelqu'un qui était blessé, c'était quelqu'un qui était étranger, c'est quelqu'un qui avait aussi tout un sentiment d'être abandonné, etc., parce que sa blessure, malgré sa foi dans le Dieu d'Israël, faisait qu'il était dans la tristesse de ne pas pouvoir entrer pleinement dans ce statut, dans cette démarche de foi. Donc c'était un homme triste, un homme plus tout à fait comme un homme, puisqu'il avait été mutilé. Et ça me fait dire que parfois, nous portons des blessures en nous-mêmes. Il y a eu des castrations dans nos vies, parfois, qui ont coupé en nous des parts de nous-mêmes. Et aller vers Dieu, c'est aussi avec le sentiment que nous ne sommes plus tout à fait entiers, qu'il y a des choses qui sont perdues, des choses qui sont blessées, meurtries. Est-ce que ce n'est pas le cas de la plupart des individus? Alors lui, il le portait dans sa chair, mais il y a des parties de notre être intérieur qui ont pu être blessées, meurtries. Et dans notre démarche vers Dieu, on y vient tel qu'on est. J'ai entendu ça dans une prière tout à l'heure. C'était un homme qui adore un Dieu étranger. Donc, certainement, quelqu'un a dit, c'est quelqu'un qui était convaincu, qui avait des convictions. Un homme aussi qui avait une caractéristique intéressante. C'est un homme qui était prêt à demander de l'aide. Et ouais. Parfois, c'est important de pouvoir et de savoir demander de l'aide quand on est en difficulté. Il y en a tellement qui se disent « je suis puissant ». Parce que c'était son statut en tant que ministre de la reine du royaume de Kouch ou d'Éthiopie, peu importe. Mais il pouvait dire, mais moi j'ai tous les pouvoirs, je peux. Mais il était capable de dire, j'ai besoin d'être aidé. C'est un homme décidé, volontaire, un homme exclu et rejeté. Mais à la fin du récit, il s'en va comment? Tout joyeux. Tout joyeux. Et cela, c'est le miracle de la conversion et de la rencontre avec le Christ ressuscité. Lorsqu'il a quitté, lorsqu'il est venu, pour adorer, en sachant qu'il n'aurait pas le droit de rentrer dans le saint ou dans le temple, etc. Je ne pourrais pas, je suis un homme qui n'a pas le droit de faire cette démarche-là. Et pourtant, il a fait... Vous avez une idée du voyage qu'il a fait pour aller à Jérusalem pour adorer? Nombre de kilomètres, à votre avis? Combien? 1000. Qui dit moins, qui dit plus? 1000, vous êtes d'accord? Plus. Combien de plus? 'Soudan, Éthiopie, Jérusalem. On considère qu'il y a entre 2000 et 2400 kilomètres, avec un char. Pas une Tesla, pas une diesel, non, avec un char. 1000 à 1200 kilomètres, ou 2000 kilomètres, et 2000 kilomètres retour. C'est là ce que me coûte ma foi pour aller adorer Dieu. Il y a parfois des efforts à faire pour aller vers Dieu. Des abandons, des lâcher-prise, et du travail à faire pour aller vers Dieu. Est-ce que je suis prêt à faire ce chemin-là pour aller vers lui? Ce qui est merveilleux pour nous, c'est que là où nous sommes, sans faire un voyage de plus d'un centimètre, là, maintenant, tu peux demander à Dieu de le rencontrer, de toucher ton cœur, ta vie, que toutes tes blessures soient guéries maintenant, tes peurs, tes craintes enlevées, que la guérison s'étend dans tous les espaces de ton être. C'est possible maintenant, parce que là où je suis, Christ viens habiter en moi. Alléluia. Alors, il est venu pour adorer. Alors, c'est pendant une fête, Dieu est là, lui est là, et il va adorer. Alors, il y a certainement des Juifs qui font des sacrifices, etc. Et puis, l'Éthiopien est peut-être un prosélyte, c'est quelqu'un qui a été gagné à la foi juive, mais il veut plus que cela. Et il est dit que il est reparti. Dans quel état est-il reparti? Comme un homme qui n'a pas eu le droit à tout ce qu'il pouvait espérer à cause de son état, de son statut, etc. Mais Dieu envoie son ange pour dire à Philippe, va sur ce chemin désert. Moi, je suis toujours un peu remonté contre les pasteurs qui ne rêvent que d'avoir des églises de multitudes. J'ai eu plusieurs jeunes pasteurs qui me disaient, moi, je suis fait pour des méga-churches. Oh. S'il y a moins de 500 personnes, c'est pas pour moi. Je dis, Dieu envoie l'ange pour aller chercher un homme dans le désert. Ouais. Ça, c'est l'attention de l'amour de Christ pour chaque homme, pour chaque femme. Il a envoyé sur le chemin. Et il y a cette question que Philippe lui pose, est-ce que tu comprends? Et cet homme-là lui répond, comment le pourrais-je si personne me guide? Là, on a aussi la réalité de l'Église. L'Église, elle ne sert pas à honorer des pasteurs, des bergers, des ceci, des cela. Elle sert à ce qu'ensemble, nous puissions nous accompagner pour nous guider, pour apporter de la lumière. On a eu, je ne sais plus si c'est ce mercredi-ci, une méditation, non, c'était il y a un peu plus de 15 jours, une méditation sur le bouc qui est envoyé dans le désert vers Azazel. Et c'est mon fils qui m'avait posé la question, et du coup, il m'a obligé à travailler sur le texte. Donc, un mercredi, je l'ai partagé. Ouais. Et puis après, quand j'ai lu le texte, déjà, il y a des personnes qui étaient là qui disaient, ouais, c'est pas simple, hein, cette histoire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, etc. Et puis, on a pu partager, parce qu'en Église, nous avançons ensemble. Et que l'idée, c'est d'apporter notre lumière à celui qui est en recherche. Et c'est pas quelque chose de pyramidal où celui qui est en haut éclaire ceux qui sont en bas. C'est ensemble, nous avançons et nous nous éclairons mutuellement. Mais est-ce que je suis prêt à demander de l'aide? Est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui me guide? Et donc, Philippe monte et s'assoit avec lui. Là aussi, il y a une attitude de bienveillance. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, assieds-toi là. Moi, je vais aller au bureau et puis je vais t'expliquer comme un professeur. Non, il monte, il se met à côté. Il est dans la même attitude que Christ. Est-ce que nous sommes, nous aussi, dans cette attitude-là, quand des hommes et des femmes de ce monde ont besoin d'être éclairés? Ou bien est-ce qu'on va leur dire, attends, t'es vraiment nul, hein, mais je vais t'expliquer parce que moi, je sais. Hein. Est-ce que nous avons la même bienveillance? Il monte, il se met à côté. Et l'eunuque lui dit, de qui le prophète parle-t-il? Et c'est là le miracle de Pâques. De qui est-ce qu'il est question dans le livre? Ésaïe 53, c'est un vrai mystère si on le lit comme cela, sans avoir la clé de lecture. Lisez le 53e chapitre d'Ésaïe, sans le mettre en lien avec Jésus. Et là, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? De quoi il est question? Il est question de quelqu'un qui accepte d'être humilié, d'être tondu, tué, etc. De qui le prophète? Alors, c'est André Chouraki qui dit « De qui l'inspiré parle-t-il » Parce que l'Éthiopien, quand il dit « le prophète », il utilise ce terme-là. Ça veut dire qu'il dit déjà que cet homme, Ésaïe, c'est un inspiré. Donc il y a quelque chose là-dedans. Donne-moi la clé. Et c'est là que Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Pâques est devenue une réalité pour l'eunuque. Et c'est pour cela qu'il repart joyeux en poursuivant sa route. Il a juste 2000 kilomètres à faire, mais il est joyeux. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez encore à faire. Je ne sais pas si vous êtes en bordure du désert, ou si vous voyez arriver la ligne d'arrivée, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle que soit la route qui vous reste à faire, vous pouvez la poursuivre joyeux. Parce que le miracle de la bonne nouvelle a pris toute sa place dans votre cœur et dans votre vie. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. T'en as plus besoin, tu peux continuer ta route. Seigneur, donne-nous de vivre ce miracle de Pâques dans nos vies personnelles. D'être à la fois un Philippe capable de se laisser conduire par l'Esprit Saint, d'avoir la même bienveillance que toi vis-à-vis de ceux qui sont en train de te chercher, qui ont faim et soif de toi. Mais tu vois aussi que parfois nous sommes comme cet eunuque blessé dans sa chair, dans sa foi, avec des blessures à vif et sincère dans notre recherche de ta pensée, de ce que tu veux pour chacune de nos existences. Donne-nous d'être comme lui, aussi convaincus, aussi désireux de te rencontrer, de te voir, de t'entendre. Tu connais nos besoins, ce qui nous a été retiré, ce qui nous a meurtri. Accomplis ton œuvre de guérison, mais aussi ton œuvre de résurrection. Que ce qui est mort revive, Seigneur, parce que cela vient de toi. Accomplis ton œuvre de résurrection dans nos vies, maintenant, Seigneur. Que l'Esprit Saint ne laisse pas de cesse que nous vivions ta vie et que nous puissions poursuivre notre route joyeux de cette joie du salut. Amen.